France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
À l'occasion de l'UNOC, la troisième conférence des Nations Unies pour l'océan, on poursuit notre semaine spéciale et on s'aventure dans les grands fonds marins. Que connaît-on de la faune des abysses ? L'océan recouvre 70% de la surface terrestre et les abysses constituent 90% du biome des espèces marines. L'exploration des grands fonds est récente et c'est la dernière terra incognita de notre planète. On recense environ 250 000 espèces marines, mais on estime entre 10 et 100 millions le nombre d'espèces encore inconnues. Il n'existe aucune cartographie complète des abysses. Alors comment vivent les animaux dans ces paysages où la lumière est inexistante, où la nourriture se fait rare et où la pression peut être mille fois plus élevée qu'en surface. Abysses, rendez-vous en mer inconnue. Sarah Samadi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle et nous sommes en ligne avec Marie-Anne Cambon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écologiste microbienne, responsable de l'équipe de microbiologie des environnements extrêmes à l'Ifremer. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation ici en direct dans nos studios à France Culture et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky tous les jours. Nous postons pour vous de nombreuses ressources. C'est sur notre compte @sciencecqfd. Alors que l'océan profond nous est très inaccessible, comment étudier ces écosystèmes? Comment estimer la biodiversité abyssale? Et quels sont les dangers qui pèsent sur cette vie aquatique? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais on commence avec notre archive du jour. En 1958, les grandes profondeurs commencent déjà à nous surprendre.
Vendredi dernier, le bathyscaphe de la marine française a effectué sa première plongée dans le Pacifique. Le commandant George Wuo l'a fait descendre jusqu'à près de 4000 mètres dans le gouffre que l'on appelle la Grande Fosse du Japon. Et des observations ont été faites par un savant japonais, le professeur Sasaki, de l'Institut des pêcheries de Tokyo. Deux découvertes intéressantes à noter. D'abord, l'existence d'une flore et surtout d'une faune sous-marine abondante à des profondeurs jusqu'ici inexplorées. Entre 1000 et 2000 mètres de fond, le professeur Sasaki a aperçu et photographié des bancs de maquereaux et de sardines, des méduses rouges de forme bizarre. Étant donné la pression considérable qu'exerce sur l'organisme plus de 1000 mètres d'eau, le professeur Sasaki estime qu'un chapitre de la zoologie marine est à refaire.
Voilà un extrait de l'émission Paris vous parle, diffusée en 1958 sur la RDF. Sarah Samadi, pendant longtemps, on a cru que la vie était impossible au-delà de 500 mètres.
Oui, on a longtemps pensé que... Enfin, déjà, on n'avait pas une idée très précise de la profondeur de l'océan. Donc déjà, vu du dessus, ça paraît plat. Donc on a beaucoup pensé que finalement, à partir d'une certaine profondeur, c'était très monotone, très plat. Et on a pensé qu'il n'y avait pas beaucoup de vie au-dessous de 500 mètres. Parce que quand on a commencé à s'intéresser vraiment de manière scientifique à qu'est-ce qu'il y a dans les océans, eh bien, il y a des chercheurs qui ont commencé, donc en particulier un chercheur qui s'appelait Edward Forbes, qui a commencé à faire... une approche scientifique pour essayer de répondre à cette question, en fait. Et il s'est intéressé à une région très particulière de la mer Égée, qui n'est pas très profonde, en vérité, et qui est un peu particulière d'un point de vue océanographique, ce qu'on sait, ça, on le sait aujourd'hui. Et il a multiplié des opérations de dragage et de chalutage à différentes profondeurs, de façon très méthodique, en fait. Il a fait environ 600 opérations, ce qui est énorme. Et de toutes ces opérations de pêche, il a ramené des organismes, il a regardé qu'est-ce qu'il y avait, quels animaux il y avait, quel assemblage il y avait et combien il y en avait. Donc il a regardé qui étaient les animaux et quelle était l'abondance. Et en mettant toutes ces données-là, en fait, il a fait une espèce de modèle. C'est-à-dire qu'il a fait ce qu'aujourd'hui on appellerait une régression linéaire, c'est-à-dire qu'on regarde, on met des points... On regarde l'abondance, on regarde la profondeur, et puis on tire une droite. On essaye de trouver la meilleure droite qui passe par tous ces points. Donc c'est à peu près ce raisonnement-là qui a fait, qui est une modélisation mathématique assez basique. Et il a inféré des choses, c'est-à-dire qu'il a dit, bah, si je suis ma droite, quand je vais dépasser 600 mètres, profondeur à laquelle il n'avait pas été, eh ben, il n'y a plus rien. On arrive au zéro. Et donc ça, c'est vraiment le début d'une approche scientifique qui a donné une théorie qui s'est appelée la théorie azoïque, qui disait ça. Cette théorie, c'est une hypothèse fondée sur l'observation des données. Et donc on observe des données, on fait un modèle très simple, une droite, et on dit, ben voilà, mes données, elles me prédisent ça. Et évidemment, cette hypothèse, mais ça c'est le jeu de la science, et ben très vite on a montré qu'elle était fausse. Tout simplement, avec des données comme, ben, on a commencé à la même époque à mettre des câbles télégraphiques à travers les océans, avec une connaissance assez sommaire de la topologie. Donc évidemment, ces câbles, ils ont cassé, on a dû les remonter pour les réparer, etc. Et puis, ben, à des profondeurs de plus de 2000 mètres, par exemple, quand on a remonté, ben, on a trouvé des organismes, ce qui montrait que la première théorie était fausse. Et donc, on a revu comme ça, peu à peu, nos hypothèses. Et c'est le fait de trouver que cette hypothèse proposé par Edward Forbes était faux, a suscité l'exploration scientifique des grands fonds avec des grandes missions comme celle du Challenger.
Et on a revu et on a cessé de revoir nos hypothèses, Marie-Anne Cambon, puisque on entendait dans cet archive de 1958, voilà, un chapitre de la biologie marine est à refaire, et encore à cette époque, on n'a pas encore fait la découverte des sources hydrothermales.
Oui, tout à fait, hein, les sources hydrothermales, c'est 1977... Des géologues qui étaient partis plonger avec l'Alvin, le sous-marin scientifique américain, pour aller voir ce qui se passe entre deux ou trois plaques tectoniques qui sont allées au large des Galapagos, persuadés de voir probablement des effets géologiques, hein, un volcan, quelque chose comme ça. Et effectivement, ils ont été très surpris de voir que c'était foisonnant de vie avec des vers qui vivent dans des tubes. Et puis des vers très colorés, hein, blancs et rouges, des crevettes, des crabes. Et on les entend d'ailleurs, il y a une bande-son qui existe, on les entend crier, mais enfin, il y a la vie, vous nous aviez dit qu'en bas, c'était pas possible. Et c'est vraiment un paradigme de la biologie qui a été modifié depuis, à savoir qu'en surface, la vie est possible grâce à la photosynthèse qui supporte effectivement la matière organique primaire grâce aux végétaux, qu'ils soient aquatiques ou terrestres. Dans les grands fonds, pas de lumière, mais dans ces environnements-là, découverts donc en 77, des sources hydrothermales, l'apport dans l'eau de mer profonde d'un fluide, une sorte de geyser qui apporte des éléments chimiques réduits qui sont en fait des sources d'énergie. Et donc, on n'a pas beaucoup cherché le mot, on a appelé ça la chimiosynthèse, en clin d'œil à la photosynthèse basée sur photo, la lumière. Et donc là, la vie est possible dans les grands fonds marins près d'un évent géologique que sont les sources hydrothermales grâce à la chimiosynthèse. Et ce sont les communautés microbiennes, hein, les bactéries et les archées, qui, grâce à leur métabolisme, sont capables d'utiliser de la chimie du minéral, donc ce qu'on appelle l'abiotique, le monde minéral, de le transformer en matière organique, les lipides, les sucres, les protéines, et de, comme ça, nourrir toute une chaîne et un réseau alimentaire jusqu'aux plus grands des animaux, qui vont soit brouter ces micro-organismes, soit établir des symbioses durables avec eux. Et c'est toute une nouvelle faune qu'on découvre dans les grands fonds marins, associée à des environnements qui, plus est, sont naturellement très toxiques, vus de nous humains.
Je reviendrai évidemment sur les conditions de vie extrêmes de ces sources hydrothermales, mais d'abord, pour un peu cartographier, plonger petit à petit dans ce monde aquatique, Sarah Samadi, la profondeur moyenne de l'océan, c'est 3800 mètres de fond, mais alors à partir de quand commencent les abysses? Parce que il me semble que l'océan, voilà, a été découpé en différents étages plus ou moins profonds.
Alors ça, c'est une bonne question et qui est pas si facile à répondre parce que chacun va avoir sa vision pour différentes raisons, en particulier dans les raisons non négligeables et qu'on néglige souvent, il y a quels moyens il y a besoin pour aller regarder ces choses-là. Donc ça, c'est un point important. Le point sur lequel on arrive à se mettre d'accord et qui est lié en partie à ce qu'on vient de discuter, c'est que au-dessous d'une certaine profondeur qu'on va situer environ à 200 mètres, ça peut être un peu plus haut, un peu plus bas, mais voilà, disons vers 200 mètres, la lumière du soleil ne pénètre plus suffisamment pour permettre cette fameuse photosynthèse. Et globalement, même si effectivement on a découvert les sources hydrothermales et cette production primaire foisonnante permise par ces processus de chimiosynthèse dans certains endroits des grands fonds, globalement, l'hypothèse dominante depuis le 19e siècle, c'est que dans la plupart des zones des fonds marins, au-dessous de 200 mètres, on est dépendant de ce qui est produit à la surface. Donc, quand on passe à 200 mètres, il n'y a plus de flore au sens végétaux. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans la petite archive, ils parlent de flore, alors que, bon, on peut parler de flore bactérienne, ok, mais flore pour les macro-organismes, enfin, c'est plutôt ce qui est végétal. Et il n'y a pas de végétaux au-dessous de 200 mètres. Donc, les abysses, c'est quand il n'y a plus de végétaux.
Voilà, l'étage phytal, fait pour phyto-végétal, là où la photosynthèse peut avoir lieu, c'est jusqu'à environ 200 mètres. Et alors, pour plonger, pour imaginer comme ça cette plongée ensemble, Marie-Anne Cambon, si on va de 1000 à 4000 mètres, là, on arrive dans la zone aphytale, qu'on appelle aussi la zone de minuit. À quoi ressemble cette région ?
Alors, c'est vrai que quand on plonge avec le Nautil, qui est le sous-marin français, on a le temps de voir descendre. Et au début, ce que disait ça, hein, au départ, on voit un peu la lumière, mais très, très vite, ça devient gris, gris foncé, on perd les couleurs. Et même à moins de 200 mètres, je dirais, il fait déjà bien nuit. Et ensuite, on descend petit à petit et on voit de temps en temps par le hublot, si on reste bien collé le nez sur le hublot, on peut voir quelques organismes qu'on a dérangés et qui sont bioluminescents. Mais en fait, on ne voit plus rien. C'est le monde obscur et on ne voit plus rien parce qu'on n'allume pas les lumières pendant la descente, mais on ne voit plus rien à l'œil humain, si ce n'est quelques organismes bioluminescents de temps en temps qui passent devant notre hublot. Et arrivé seulement sur le fond, là, on voit parce qu'on allume les projecteurs et on peut voir devant nous. Mais c'est un petit peu comme se promener avec une lampe torche en forêt, de nuit.
Sarah, ça m'a dit, quand on passe la barre des 4000 mètres de profondeur, là, on approche la plaine abyssale qui se situe entre 4000 et 6000 mètres.
Oui, là, après, il y a des plaines à différentes profondeurs. Hein. Ça peut être à 2000 mètres, ça peut être. Mais effectivement, en moyenne, c'est plutôt 4 à 6000 mètres. Et là, on a effectivement des environnements qui, quand on les regarde avec, par exemple, un robot ou une caméra, paraissent très désertiques, en fait. Parce que on ne voit pas beaucoup de gros organismes qui vivent et ça paraît être très très monotone. En fait, ces environnements qui paraissent très monotones, ils sont très dépendants de la nourriture qui vient de la surface, donc il n'y a pas énormément à manger. Mais quand on regarde de plus près et qu'on regarde en particulier toutes les animaux de petite taille dans les sédiments, c'est extrêmement diversifié. Il y a beaucoup de groupes d'animaux qu'on connaît dans les abysses et qu'on connaît aussi dans les zones côtières, qui sont plus diversifiées, il y a plus d'espèces dans les grands fonds que dans les zones côtières, alors même qu'on n'en a exploré quasiment rien.
Et on reviendra aussi également sur ces modes d'exploration de la biodiversité abyssale. En tout cas, voilà, là, on est dans un environnement, vous dites, très désertique, aussi très lent. Si on continue de plonger, au fond de la plaine abyssale s'ouvrent parfois des fosses, Marie-Anne Cambon. Et là, c'est la zone Hadale qui tire son nom du dieu des enfers grecs, Hadès.
C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Donc là, la plus profonde, c'est la fosse des Mariannes. Qui se trouve au large du Japon, hein, qui plonge à presque 12 000 mètres de profondeur. Où là, il n'y a pas grand monde qui arrive à descendre si loin, mais il y a eu un petit sous-marin de poche qui y est allé il n'y a pas si longtemps que ça, justement. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, tout échantillon, aussi profond soit-il, aussi incroyable au niveau de son mode de vie soit-il, renferme une biodiversité complètement inconnu. Là, aujourd'hui, lorsqu'on regarde sur un petit échantillon de sédiments dans une fosse Hadale, on regarde la présence d'ADN, c'est-à-dire la signature biologique des organismes, et on se rend compte que plus de 80% de ce qu'on trouve est totalement inconnu dans nos banques de données internationales. Et quand je dis 80%, c'est peut-être même encore plus que ça. Ce qui veut dire que ça ouvre un champ incroyable de possibilités du vivant et de diversité biologique, même dans ces grands fonds-là qui paraissaient inertes. Comme dit Sarah, en fait, c'est qu'on ne voit pas beaucoup de grosses bêtes, on en croise très peu. Dans les plaines abyssales, représentent à peu près 80% de la surface des fonds marins. On ne croise pas beaucoup d'animaux. Par contre, il y a une très grande diversité, mais avec peu d'individus par espèce. Et donc, ça a un challenge de continuer à se reproduire, d'ailleurs. Et c'est vrai que jusqu'au Fossadal, à 12 000 mètres de fond, la vie est là.
Alors, que connaît-on de cet environnement dantesque? Quelles sont les conditions de vie? Comment les animaux s'y adaptent-ils? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Trioux.
En direct sur France Culture, on explore les abysses pour notre semaine spéciale océan. On vient de voir qu'actuellement, on ne documente que 20% de ce qui se passe en dessous de 200 mètres de profondeur. Que la profondeur moyenne des océans est de 3800 mètres. Sarah, ça m'a dit, on vient d'évoquer le fait qu'on connaît 250 000 espèces marines. On pense qu'il doit y en avoir au moins 10 fois plus. Comment sait-on qu'on ne sait rien ?
Eh bien ça, c'est pas facile. C'est vraiment un défi d'arriver à faire des estimations. Et cette question de la taille de la biodiversité, c'est des questions qu'on s'est posées à partir des années 80. C'est-à-dire que à la fin des années 70, début des années 80, on pensait quand même qu'on connaissait les trois quarts de la biodiversité et qu'il restait encore des choses à décrire et que c'était les choses pas faciles, discrètes, etc. Mais on n'imaginait pas à quel point on savait rien. Et dans les années 80, on a commencé à se poser ce type de questions. Alors plutôt à partir des forêts tropicales, avec des expériences qui ont montré que je prends un premier arbre, je secoue pour récupérer les insectes, je compte les insectes, je reprends un autre, et je fais ça plusieurs fois, et je compare. Et après, je regarde combien il y a d'espèces d'arbres dans la forêt, je multiplie par X, etc., et j'arrive à faire une estimation. Les méthodes, grosso modo, elles sont basées là-dessus. C'est-à-dire qu'on a échantillonné un certain nombre de choses. On regarde combien de choses on retrouve et aussi combien de choses nouvelles on a entre deux échantillons. Et à partir de ça, on fait des échantillons. Alors évidemment, c'est moins on connaît, plus il y a une marge d'erreur importante dans ces estimations. C'est pour ça que dans les estimations qu'on va donner, on va pouvoir avoir des gaps aussi grands que peut-être 2 millions, peut-être 10 millions, peut-être 100 millions. Et il y a des discussions entre spécialistes qui sont extrêmement importantes. Si je prends le cas des organismes marins, et en particulier des profondeurs. Un exemple intéressant, c'est de dire, on peut regarder les parasites qu'il y a dans un organisme. Et est-ce que dans une même espèce, par exemple de poisson, est-ce que je vais retrouver les mêmes parasites si je prends cette même espèce de poisson à Tahiti, à Nouméa, en Australie, etc. Et à partir de là, je vais pouvoir essayer d'estimer combien il y a d'espèces de parasites en multipliant par le nombre d'espèces de poissons, etc. Donc c'est assez complexe et c'est un débat qui est extrêmement ouvert. Voilà.
C'est-à-dire qu'en effet, on a des méthodes directes qui sont un peu compliquées quand même avec les engins sous-marins que vous citiez, comme le Nautil sur lequel vous êtes déjà montée, Marianne Cambon. Et on a surtout ces méthodes indirectes. L'ADN environnemental, c'est un peu comme sur la scène d'un crime.
C'est exactement ça. C'est une révolution pour la biologie que cet ADN environnemental. C'est-à-dire qu'effectivement, exactement comme les experts vont aller sur une scène de crime, relever des échantillons pour identifier qui est passé par là. On fait pareil avec des échantillons d'eau profonde, de sédiments, de roches, de certains animaux. Et puis, on regarde tout l'ADN qui est présent. Grâce à nos petites machines, on multiplie l'ADN et puis on en lit la séquence qu'on compare aux banques de données internationales qui sont toutes interopérables, c'est-à-dire qu'elles communiquent toutes les unes avec les autres. Et puis cette information-là, ensuite, on regarde ce qu'on connaît et les derniers résultats des laboratoires sont tous dans le même sens. C'est-à-dire qu'on récupère une masse de données incroyable. À chaque fois, on a des millions des séquences différentes et dans lesquelles pratiquement 60 à 70% c'est non connu. L'ordinateur répond non connu. Alors, c'est très frustrant et en même temps, c'est très excitant parce qu'on se dit que la biodiversité, elle, c'est un peu un puits sans fond. Effectivement, comme disait Sarah, aujourd'hui, donner un chiffre de combien on peut attendre d'espèces, on ne sait pas. Parce que entre les toutes petites faunes qu'on voit pas à l'œil nu, il faut une loupe binoculaire, voir un microscope, les micro-organismes même, les bactéries, jusqu'aux grands animaux, c'est tout un champ nouveau pour la biologie.
C'est vrai que dès qu'on descend dans ces grandes profondeurs, on y découvre de la vie. Sarah, ça m'a dit comment ces organismes, ces animaux font-ils pour pallier le manque de nourriture qu'on a évoqué tout à l'heure?
Alors, c'est une bonne question et en fait, une question à laquelle c'est pas si facile de répondre. Ce qu'on peut constater, c'est que l'évolution a trouvé des chemins pour y arriver, puisqu'on trouve beaucoup d'espèces. Probablement que les modalités, le rythme de vie va s'adapter à cette faible nourriture avec des stratégies qui peuvent être variées en fait. On peut avoir une stratégie qui est de dire bon, je vais vivre longtemps en mangeant ce que je peux, en espérant, en me laissant le temps de me reproduire. Donc c'est une stratégie qu'on pense être assez fréquente parce que beaucoup d'organismes qu'on regarde, quand on essaye d'estimer leur durée de vie, on tombe souvent sur des chiffres assez étonnants. Apprendre avec des pincettes parce que c'est des choses très indirectes que l'on fait, mais voilà.
Quand vous dites leur durée de vie, c'est-à-dire, oui, c'est ça, c'est que leur cycle de vie est beaucoup plus long que celui des espèces marines en surface, ils grandissent très longtemps.
Voilà, par exemple, on peut, sur Terre, on a l'habitude d'organismes très longévives comme les arbres. Les arbres, tout le monde sait que les arbres, ça peut vivre plusieurs centaines d'années. Eh bien, dans les fonds marins, c'est les animaux qui vivent longtemps comme ça, parce que, comme on l'a dit déjà, il n'y a pas de plantes. Mais on a des espèces comme des coraux ou des éponges qui peuvent avoir aussi plusieurs centaines d'années. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il y a des vertébrés qui ont des durées de vie très longues, qui peuvent se compter en centaines d'années. Et ça, pour nous, ça paraît très étonnant. Probablement que le rythme de la vie est pas le même, mais les conditions ont quand même permis beaucoup d'innovations évolutives. Donc, y a des contraintes, mais il y a moyen d'en faire quelque chose.
Parmi ces innovations évolutives, Marie-Anne Cambon, on voit, on a des beaux exemples de mâchoires redoutables de prédateurs des grands fonds qui sont capés et bien attribués pour chasser efficacement. Il y a en effet de véritables monstres des abysses.
C'est vrai que certaines espèces profondes portent bien leur nom de monstre dans notre bestiaire habituel qu'on a depuis l'enfance. Effectivement, les animaux profonds, comme disait Sarah, il y a beaucoup, beaucoup de diversité au niveau des plaines abyssales qui sont des grandes zones, on pourrait dire comme des plages géantes, où tout est très, très calme, tout est très, très lent. Et les animaux ont une probabilité d'attraper une proie ou un partenaire qui est quand même assez faible. Donc, pour les proies, faut pas qu'ils se ratent. Donc, effectivement, certains ont développé des mâchoires et des dents acérées assez stupéfiantes, pour pas dire autre chose. Je pense qu'on peut tous en faire des cauchemars. D'autres ont prévu des systèmes de petites lumières par bioluminescence pour attirer ou la proie ou le partenaire. Et effectivement, certains portent bien le nom de monstre, oui. Et effectivement, dans les plaines abyssales, la vie ne vit que grâce à tout ce qui tombe de la surface et qui est consommé d'ailleurs tout au long de la colonne d'eau jusqu'au fond. Et du coup, il reste pas grand-chose à manger pour le fond, avec du coup un temps lent qui est un petit peu à l'opposé de ce qui se passe près des zones géologiquement actives, justement.
On a par exemple, je l'aime beaucoup, le requin lutin pour faire des cauchemars avec des mâchoires extrêmement désarticulées qui peut les propulser vers l'avant, ce qui permet de capturer à coup sûr ses proies, et avec un museau parsemé d'ampoules de Lorenzini, un des organes sensoriels qui permettent de détecter les champs magnétiques émis par ses victimes et les variations de température. Parmi ces adaptations au grand fond, on a évoqué la bioluminescence. Une grande majorité d'espèces est bioluminescente, Sarah Samadi, mais sait-on pourquoi ces animaux produisent-ils leur propre lumière?
Alors, c'est pas...
Ils produisent leur lumière ou sinon sont aussi en symbiose avec des bactéries bioluminescentes.
Exactement.
C'est le cas justement de ce poisson lanterne.
Alors, la bioluminescence, ça n'existe pas que dans les océans profonds. On connaît tous les lucioles, par exemple, dans les animaux qui vivent dans la surface de l'eau. Il y a aussi pas mal de bioluminescence. Et... dans les choses importantes, quand on est dans les grands fonds, il y a deux choses quand même dans tout ce qu'on vient de dire. Il y a une première chose, c'est de trouver à manger. Donc il faut trouver ses proies et puis éviter de se faire manger. Donc ça, c'est un point important dans les contraintes que rencontrent les animaux. Et l'autre chose importante, c'est qu'on a besoin, pour se reproduire, pour la plupart des animaux, je parle pas des bactéries, mais tous les animaux, on a besoin de rencontrer des partenaires en général, ou alors d'émettre des gamètes dans des endroits où il y a des partenaires. Donc, arriver à se reconnaître, à pas se tromper d'espèces partenaires, trouver le bon partenaire, c'est probablement un lien fort avec cette bioluminescence. Je dis bien que c'est que des hypothèses, parce qu'en fait, on raisonne beaucoup par analogie avec ce qu'on connaît ailleurs, sur Terre, dans les zones peu profondes. Et donc, par rapport à ce qu'on sait, on imagine que cette bioluminescence, elle peut servir à faire un leurre, à attirer ses proies, ou à détourner pour éviter de se faire manger.
À éblouir,
voilà, des choses comme ça. On peut aussi penser que ça permet de faire reconnaître à son partenaire un certain nombre d'attributs. Donc ça, c'est probablement une hypothèse, mais c'est probable aussi que dans la mer, les animaux utilisent des sons, et utilisent des produits chimiques qui sont diffusés pour attirer leurs partenaires. Mais cette bioluminescence, elle joue certainement un rôle de ce type-là, même si on n'a pas Enfin, c'est assez difficile à étudier.
Alors, autre caractéristique de cet environnement-là, Marianne Cambon, c'est à mesure que l'on s'enfonce dans les profondeurs de l'océan, la pression s'accentue d'un bar tous les 10 mètres. Alors, comment s'adapter à la pression pour ces organismes vivants?
Alors ça, sont des études aussi qui sont portées par pas mal de collègues, d'essayer de comprendre comment la vie est possible. Alors, on parle souvent de survivre d'ailleurs, mais non. Ces organismes-là ont des systèmes biologiques qui leur permettent de vivre, mais uniquement à ces grandes pressions-là. Alors, certains sont capables de faire différentes pressions, hein, et donc ça peut jouer pour certains poissons sur des vessies natatoires qui sont modifiées, ça peut jouer sur des protéines, c'est-à-dire la structure même de la vie qui est modifiée, les membranes des cellules qui peuvent être modifiées. Et effectivement, on a même au niveau des micro-organismes, on se rend compte qu'aujourd'hui, certains micro-organismes ne peuvent pas vivre sans pression. Donc, ça veut dire que nous, si on veut aller les étudier, il faut qu'on développe des outils de manière à remonter les organismes sous pression pour pouvoir les maintenir.
Marianne Cambon, on a l'exemple du blobfish qualifié de poisson le plus laid du monde. Quand on le remonte à la surface, il prend cette forme gélatineuse qui ne ressemble pas du tout à son apparence dans le milieu naturel. On voit que les poissons sont mous sous l'eau.
Oui,
alors, à ces profondeurs-là.
Alors, ces poissons, cette question de la pression, comme le disait Marianne juste à l'instant, c'est que les animaux qui vivent à ces profondeurs, eux, quand on les met en dehors des grandes profondeurs, ils ont du mal parce que eux, ils ont développé effectivement au cours de leur histoire évolutive des systèmes qui leur permettent de vivre dans cet environnement-là. Contrairement à nous, nous, on a du mal à descendre au-dessous de 100 mètres et encore avec des scaphandres, des choses ou alors des robots, etc. Donc, on est vraiment très très limité par ça. Donc, ces fameux poissons. Effectivement, ils ont développé un certain nombre de caractères, mais peut-être aussi qu'ils en ont perdu certains caractères. Ils ont perdu des caractères qui, quand on est à moins grande profondeur, avec moins de pression, on a besoin de tenir son corps, ses tissus. Et peut-être que quand on est à plus grande profondeur, justement, cette énergie qu'on va utiliser pour fabriquer ce squelette et maintenir cette faible pression, eh ben, on n'en a pas besoin. Donc, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie, peut-être qu'on va le réallouer ailleurs. Donc, faut faire attention aux interprétations qu'on donne. C'est-à-dire qu'on se dit, oh là là, ils sont moches, cette pression, c'est dur. Bah oui, mais l'inverse, c'est dur aussi. C'est-à-dire que l'absence de pression, pour eux, c'est quelque chose d'extrême.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'avoir un corps trop rigide à de telles profondeurs et à de tels niveaux de pression. Et ma question était peut-être très anthropocentrée, très terrienne, finalement. Alors, comment les sources hydrothermales participent-elles au développement d'écosystèmes profonds? Comment l'exploration des abysses bouscule les sciences biologiques? Restez à l'écoute. De John Carpenter en direct sur France Culture, car on explore la faune abyssale en compagnie de nos deux invités du jour, Sarah Samadi, professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle, et Marie-Anne Cambon, écologiste microbienne responsable de l'équipe de microbiologie des environnements extrêmes à l'Ifremer. On vient de voir que dans les plaines abyssales, il existe une grande diversité d'espèces, qu'on trouve des espèces de toutes les branches du vivant dans les abysses, mais notre connaissance de cette biodiversité des grands fonds est très parcellaire. On a évoqué ces oasis de vie que sont les sources hydrothermales. Marie-Anne Cambon, à quel point justement ces sources hydrothermales participent-elles au développement d'écosystèmes profonds?
Alors en fait, les sources hydrothermales, elles sont distribuées un petit peu partout sur la planète, dans les zones justement tectoniquement actives, donc soit les zones d'écartement, là où la nouvelle croûte océanique va se former, c'est les rides médio-océaniques, et puis dans les zones dites de bassin aérarque, c'est-à-dire les zones de subduction. On va avoir derrière une zone de subduction où une croûte passe en dessous de l'autre, ces phénomènes aussi hydrothermaux. Et ces écosystèmes-là qui sont distribués un petit peu tout le long de ces grands axes profonds sont en connexion les uns avec les autres, c'est ce qu'on appelle la connectivité. Contrairement à la plaine abyssale, il y a peu d'espèces qui sont très adaptées à ces environnements-là. Par contre, elles sont en général en nombre d'individus très importants. Par espèce. Par exemple, la crevette hydrothermale à grosse tête, on compte jusqu'à 2500 à 3000 individus par mètre carré, c'est-à-dire c'est comme un essaim d'abeilles autour de sa branche d'arbre. C'est vraiment assez impressionnant. Et en fait, on a une production de biomasse animale et microbienne vraiment très importante basée sur cette chimiosynthèse, mais qui ne reste pas cantonnée à la source active à un moment donné, mais qui va du coup se diluer. Et on voit que de proche en proche, un petit peu plus loin, il y a un apport de matière organique sur les zones périphériques proches. Et puis, ce qu'on sait aussi, c'est que cette chimiosynthèse permet par les communautés microbiennes de fixer le CO2 de l'océan profond, donc c'est ce qu'on appelle un puits de carbone, et synthétise grâce à la chimiosynthèse la matière organique nouvelle qui est reprise par des organismes plus grands. Donc, tous ces écosystèmes profonds sont en lien avec les grands cycles biogéochimiques de l'océan profond et qui ensuite sont repris par les courants, par l'activité de certains animaux qui sont capables de plonger et d'aller sur la colonne d'eau. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit que l'océan, c'est unique, c'est un tout qui communique et chaque écosystème communique avec les autres par ces échanges.
Sarah, ça m'a dit, en tout cas, sur ces sources hydrothermales, on peut qualifier cet environnement-là, cet environnement direct, comme environnement des conditions de vie extrêmes.
Alors, la question de qu'est-ce qui est extrême ou qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est une question intéressante. Très souvent, on a une vision de ce qui est extrême qui est par rapport à nous. C'est-à-dire que, bah, typiquement, on parlait tout à l'heure de la pression. La grande pression, ça nous paraît extrême. Si on était une bête qui vit dans les grands fonds, c'est l'inverse qui nous paraît très extrême. Donc ça, c'est un point qu'il faut toujours avoir en tête parce que ça biaise la façon dont on réfléchit. Par contre, ce qu'on peut appeler extrême de façon un peu plus, comment dire, rigoureuse et pas anthropocentrée, c'est quelles sont les limites qu'on imagine au système vivant tel qu'on le connaît sur Terre. Donc la biologie des organismes sur Terre, en fait, elle est très partagée par tous les organismes, c'est-à-dire que ils sont tous fabriqués de protéines, de lipides, d'ADN, avec des mécanismes cellulaires très communs. Et ces mécanismes, cette biochimie-là, elle a un certain nombre de contraintes. Et dans les contraintes qu'on connaît, on n'est jamais à l'abri de surprises, mais il y a la température, il y a un certain nombre de chimies, de pH, etc., qui vont jouer. Donc dans les sources hydrothermales, on ne s'attendait pas effectivement à avoir autant de vie parce que c'est chaud, parce que il y a un certain nombre de composés qui semblent assez toxiques à la vie. Donc de ce point de vue-là, ça paraît assez extrême. Mais la vie a pu s'adapter, donc voilà. C'est
oui, sous des conditions de vie extrêmes, en tout cas dans ces endroits-là. Marie-Anne Grandmont, puisqu'on parle d'environnement chaud, très chaud, il y fait entre 250 et 400 degrés. On a des extrémophiles qui ont fait preuve de stratégie folle pour vivre ici.
Alors oui, effectivement, les geysers, hein, les fluides hydrothermaux qui ressortent au niveau des sources hydrothermales vont jusqu'à 400 degrés, 350-400 degrés. Alors, la vie jusqu'à maintenant, telle qu'on la connaît, le record est à 120 degrés sous pression. Et donc, en fait, ce geyser va sortir dans une eau froide et oxygénée qui est en gros à 2,5 degrés, entre 2,5 degrés et 3 degrés dans le fond. Et le fluide, lui, il n'y a pas d'oxygène du tout et il est très chaud. Donc, c'est le contact entre les deux qui provoque cette source hydrothermale et cette cheminée. Et les organismes en général et les micro-organismes en particulier vont s'établir. Donc oui, on a des micro-organismes hyper thermophiles. Pour eux, la belle vie, la vie normale, comme dirait Sarah, c'est 90, 95 degrés. Et là, ils sont bien. Si vous les mettez en dessous ou si vous leur mettez un tout petit peu d'oxygène, c'est la mort instantanée. Et puis comme ça, on a toute la gradation. En fait, on a depuis 120 degrés à 90, on a les hyper thermophiles, puis les thermophiles, les mésophiles, jusqu'aux psychrophiles et aux animaux qui vont vivre entre 30 et 4-5 degrés pour les modioles, par exemple. Et donc, effectivement, on a toute une chaîne biologique qui va s'étager à proximité et un peu en cercle concentrique, pour faire simple, en fonction de la température et donc du besoin de chimie que requiert leur vie dans ces grands fonds. Et c'est vrai qu'on parle d'extrémophile parce qu'on est dans les grands fonds, parce que c'est la pression. La température, il y a des gradients très, très forts de température et de chimie. Mais parfois, lorsqu'on regarde une flaque d'eau salée en bord de mer ou grande marée, on se dit que les animaux doivent avoir bien chaud l'été aussi.
Et tout de suite, on part découvrir des spécimens, non pas d'extrémophiles, mais de limaces frisées. C'est notre reportage du jour. Les espèces abyssales restent méconnues car les conditions d'accès sont extrêmement difficiles pour aller les observer. Un autre ensemble d'organismes sont également mal connus, les benthos. À l'aquarium de Paris, des recherches sur ces spécimens sont en cours, ainsi que des projets de conservation et vous êtes allée les contempler, Céline Lozen. Bonjour.
Bonjour Natacha, les espèces benthiques, oui, sont méconnues car se nichent dans les fonds et sédiments marins, là où elles évoluent, que ce soit dans les profondeurs des abysses ou en zone côtière. Le biologiste marin et soigneur Étienne Bourgoin étudie en particulier les limaces de mer. Dans ses aquariums, il amène à examiner cette espèce aux propriétés remarquables, du camouflage à la photosynthèse, elle exprime une grande capacité d'adaptation et incarne toute une biodiversité qu'il reste à explorer.
Alors ici on est dans la quarantaine tropicale, on est un peu en travaux parce qu'on est en train de changer un peu la façon de recevoir et de soigner nos poissons. Donc on reçoit des poissons d'un peu partout dans le monde, mais aussi de particuliers, d'autres structures qui font l'élevage par exemple. Et puis après des fois on a des poissons qui sont malades, on va avoir besoin de les soigner. Et puis vu qu'on travaille beaucoup avec des petits poissons, on a changé nos structures pour qu'elles soient plus adaptées à la taille de nos animaux. Et donc au fond de cette pièce-là, on a un nouvel espace qui est destiné à un milieu de vie un peu particulier qui est le benthos, donc tout ce qui vit au fond des océans.
Le benthos, ça caractérise donc les espèces qui vivent sur les sols, que ce soit peu importe la profondeur finalement, les abysses ou alors
exactement.
Les zones côtières.
Le benthos, ça va vraiment être l'opposé du plancton, donc c'est l'opposé de ce qui est pélagique, donc ce qui est dans la colonne d'eau. Donc le benthos, c'est tout ce qui est au fond. Ça peut être de l'estran, vraiment de la zone de balancement des marées jusqu'aux plus grandes profondeurs des abysses.
Dans le benthos, il me semble qu'il y a trois catégories en fonction de leur taille, les micros, les méios et les...
Tout à fait. Alors dans toutes les catégories de description de milieu de vie d'animaux, on va avoir des sous-catégories de taille. On va avoir du benthique très petit et on va avoir du benthique très gros. Donc, voilà, il y a des animaux qui vont vivre sur les fonds qui vont être de l'ordre du mètre et puis des animaux qui vont être de l'ordre du micron.
On peut s'approcher des bassins et puis décrire quelques
Tout
spécimens.
À fait. Approchons-nous de nos limaces de mer. Alors ici, on est devant notre élevage de limaces de mer frisées. Donc on a un bassin qu'on appelle un bain-marie. Et dans ce bain-marie, on va faire tremper des caisses qui vont isoler des individus. Et donc là, c'est un peu sale parce qu'il y a des algues qui vont être mangées par les limaces. Et donc les limaces, on les voit ici, par exemple. Donc là, on a vraiment des limaces frisées qui font...
On dirait des feuilles.
Tout à fait.
Alors, c'est pour ça que je n'arrivais pas à les distinguer.
Exactement, qui ont un camouflage et qui vont ressembler à des feuilles. Et alors, elles sont encore plus particulières que ça, parce que leur camouflage, il va encore plus loin. Vraiment, elles vont mimer certains types d'algues qu'elles vont manger. Et puis, cette couleur verte qu'on voit ici, c'est une particularité de cette espèce. Elles vont tirer les chloroplastes qui sont à l'intérieur des algues qu'elles mangent. Donc le chloroplaste, c'est littéralement le panneau solaire de l'algue. Elles vont garder ces chloroplastes à l'intérieur de leur tissu et les réutiliser comme des chloroplastes classiques. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont tirer profit directement du soleil. Et d'où leur couleur tout à fait verte, c'est que c'est un stockage de chloroplastes dans leur tissu animaux, enfin, dans le tissu animal de l'individu.
Du coup, pour ce mécanisme milieu, ça veut dire qu'elles ne sont pas tellement en profondeur pour que la lumière puisse les atteindre.
Exactement. Celle-ci, c'est du benthos, mais des côtes, benthos côtier. Donc on va trouver Elysia crispata, c'est le petit nom scientifique de cette espèce, maximum à une vingtaine de mètres, pas beaucoup plus profond. Et donc là, Elysia crispata, quand elle a de l'algue à manger, ça va être sa principale source d'énergie. Et quand elle n'a plus rien à manger, elle va utiliser le soleil pour faire fonctionner ces chloroplastes et vivre de cette énergie des chloroplastes. Et ces chloroplastes, ils ne sont pas produits par l'animal, mais ils sont volés au sein de cellules végétales. Donc c'est vraiment une intégration complète d'une cellule végétale à l'intérieur, enfin d'un organite végétal même, à l'intérieur d'un tissu animal.
Au cours de son existence, elle absorbe ces organites et du coup, elles peuvent vraiment être autotrophes.
Exactement, elles vont vraiment être autonomes du coup.
Comme un végétal.
exactement comme un végétal. Donc ça, on appelle ça de la kleptoplastie, c'est très étudié. Et alors, cette espèce, elle vient de Guadeloupe parce qu'on a, un partenariat avec l'Aquarium de la Guadeloupe et on les remercie beaucoup d'ailleurs pour ce travail qu'on fait avec eux. Mais on a aussi un partenariat avec une université qui est à Aveiro au Portugal et ils étudient spécifiquement ce genre qui s'appelle Elysia et qui est vraiment très utile pour comprendre ces mécanismes incroyables d'intégration d'organites cellulaires exogènes, quoi.
Une grande adaptabilité au milieu.
Tout à fait, et puis surtout une réversibilité. Donc en gros, vraiment, cet individu, il peut, si on le met dans l'ombre et qu'on lui donne des algues à manger, il va survivre. Et si on enlève les algues et qu'on lui met de la lumière, il va aussi survivre. Donc il a vraiment cette option, enfin ces deux options, très particulières. Et ça, on trouve ça vraiment que dans le Mentos.
Quel est son cycle de vie ?
Alors voilà, ça c'est aussi très intéressant, c'est que là, toutes les espèces qu'on va voir, elles ont principalement des cycles de vie mixtes entre le pélagique et le benthique. Cette diversité qu'on ne connaît pas forcément, parce qu'on en parle très peu du Mentos, avec des formes de vie assez exceptionnelles comme les limaces de mer, mais qui ont aussi un lien avec le pélagique, donc qui ont aussi un lien avec toutes les chaînes trophiques en règle générale. Donc voilà.
On dit que dans les abysses, c'est des profondeurs quand même extrêmes où il y a des conditions de luminosité, de pression incroyable, et donc d'adaptation peut-être de ces spécimens.
Alors c'est un sujet qui est extrêmement intéressant, les abysses. Ça serait très intéressant de montrer ça au public. Malheureusement, les techniques de maintenance sont incroyablement compliquées, aussi compliquées que les techniques d'exploration, et qui du coup va montrer une diversité exceptionnelle, mais qui ne montrera jamais la diversité de ce qu'on peut. Voilà, les abysses, c'est incroyable, les formes de vie et les formes d'adaptation des animaux qu'il y a dans ces eaux-là. Et ici, on a encore un autre bain-marie avec une espèce qui nous a été donnée.
Donc là, on est devant une éponge.
Alors là, on est devant une éponge, mais là, c'est ce qui a attiré votre attention. Mais sur le côté à gauche, vous avez une limace de mer.
Ah oui,
voilà.
Qui est sur la paroi.
Tout à fait, un dorinidé dalmatien.
Oui, donc, parce qu'elle a une robe blanche avec des taches noires.
Exactement, tout à fait représentative, qui fait tout à fait penser à un dalmatien. Et donc, ce petit individu qui vient de l'aquarium de Banyuls, dans le sud de la France. Et du coup, là-bas, ils ont un élevage. Donc, ils nous ont transmis les techniques d'élevage. Et puis, on essaye d'élever ça pour pouvoir le montrer au public ici à Paris. Et cette espèce, elle est aussi particulière. Elle va manger un seul type d'éponge. Et voilà, elle a une nourriture. Et si vous n'arrivez pas à élever cette nourriture, et bah, c'est raté.
Merci Céline Lozen. Tous nos reportages en immersion sont à retrouver en podcast dans la collection La Science au Labo sur l'appli Radio France. Marianne Cambon, on entendait dans ce reportage voilà, que les techniques de maintenance sont difficiles pour la faune des abysses. Alors comment maintenir les poissons abyssales en captivité? On a un exemple à Brest avec l'Abyss Box.
Alors oui, tout à fait, en collaboration entre Océanopolis, l'aquarium de Brest, et puis les collègues de Sorbonne Université à Paris, ils ont développé la Abyss Box, qui est en fait un petit peu version grand public ici, ce qu'on utilise sur les bateaux justement pour nos expérimentations et nos études de la physiologie, c'est-à-dire le mode de vie des animaux profonds. Et donc, quand on est en mer avec le sous-marin, on peut récolter certains animaux, alors en général des crustacés, qui sont moins sensibles à la remontée, donc des crevettes qu'on remonte avec des appareils spéciaux qui gardent au mieux la pression, et on les ramène à Brest dans des bacs spéciaux et on les remet sous pression comme s'ils étaient in situ. Et donc en plus là, les collègues ont développé des systèmes pour pouvoir les nourrir, leur donner un petit peu de matière organique pour les garder plus longtemps. Et ça permet au grand public de découvrir un petit peu les notions de pression, la difficulté d'accès au grand fond, puisqu'on est très peu de nations finalement à avoir les moyens d'aller dans les grands fonds. Et effectivement, bon, on a des fois les grands fonds, c'est un petit peu difficile de se représenter, mais les sous-marins militaires descendent à 4, 5, 600 mètres, quand là on parle de 3000, 4000 mètres. Donc effectivement, on est très peu de nations à pouvoir partager ce qu'on voit dans les grands fonds. Et donc la Abyss Box en fait partie, et c'est vraiment un endroit à aller lorsqu'on visite Brest.
Marianne Cambon, vous vous intéressez particulièrement à une espèce qu'on retrouve près des sources d'eau chaude, une petite crevette nommée Rimicaris exoculata. Alors, où vit ce petit crustacé? Comment se nourrit-il?
Alors, Rimicaris exoculata est une crevette qu'on a découverte en 1986, donc c'est pas vieux. Et elle a tout de suite attiré l'attention des biologistes, parce que d'abord, elle a une énorme tête par rapport au reste de l'abdomen, c'est-à-dire la queue de la crevette paraît petite par rapport à sa tête, qui est renflée, elle a comme des bajoues de hamster sur les côtés. Et donc, elle vit jusqu'à 2500 à 3000 individus par mètre carré, vraiment sur les parois chaudes de la cheminée hydrothermale. Et les biologistes avaient l'impression qu'elle mangeait du caillou. Donc, effectivement, un organisme vivant respire de l'oxygène et mange autre chose que des cailloux. Et à force de l'étudier, on a pu décrire ces dernières années qu'en fait, elle héberge dans ses bajoues des communautés microbiennes symbiotiques qui fabriquent par chimiosynthèse leur propre matière organique et nourrissent en même temps la crevette. Donc, la crevette, en nageant entre l'eau de mer où elle respire et les fluides où elle nourrit ses bactéries, entre guillemets, elle se nourrit de façon assez passive. Elle a toujours un tube digestif et un système digestif ouvert, mais on ne comprend pas très, très bien à quoi il sert. Et puis, ces micro-organismes permettent aussi à la crevette de vivre alors qu'il y a de l'hydrogène sulfuré, qui est un gaz toxique qui prend la place de l'oxygène dans le système circulant, donc le sang pour nous, et qui tue. L'hydrogène sulfuré, c'est vraiment le gaz qui sent l'œuf pourri. Et donc, au fond, c'est la source d'énergie principale que les micro-organismes transforment. Et la crevette, comme ça, peut vivre sur place. Sa reproduction, aujourd'hui, on est encore en grande difficulté pour en parler. On sait aujourd'hui qu'elle se reproduit avant l'hiver, puisqu'on a observé les femelles avec des œufs en hiver, pour nous l'hiver sur l'hémisphère nord. Donc en gros, de novembre-décembre à janvier-février, on a des femelles avec des œufs, au plus près des systèmes hydrothermaux actifs. Ensuite, les larves partent dans l'eau, et là on les perd, on n'arrive pas à les retrouver. Et on retrouve des jeunes juvéniles, donc des toutes petites crevettes de moins d'un centimètre, rouges très vifs, qui n'ont pas encore la grosse tête. Et puis petit à petit, une fois qu'elles arrivent sur site, en faisant leur mûre croissance, elles vont métamorphoser, c'est-à-dire qu'elles vont petit à petit se déformer avec cette grosse tête et acquérir leurs bactéries amies qui les nourrissent. Mais on a encore plein de trous noirs dans nos connaissances. On manque encore de beaucoup de points de connaissances pour bien comprendre comment fonctionne la vie dans ces environnements-là.
On a encore plein de trous noirs dans nos connaissances. Et puis, lorsqu'on parle comme ça de l'incroyable biodiversité des abysses, difficile de ne pas évoquer ensemble les dangers qui pèsent sur ces écosystèmes. Sarah, ça m'a dit, les organismes des profondeurs ne sont pas à l'abri de l'activité humaine. Eux aussi sont exposés, par exemple, aux pollutions.
Alors, la mer, globalement, on ne voit pas ce qu'il y a dessous à cause de l'eau. Donc, c'est un peu... On peut ignorer assez facilement ces environnements-là depuis la surface. Et on a beaucoup utilisé la mer, au final, comme une poubelle. Ça paraissait acceptable, en fait. Donc, on a la quantité de déchets d'origine humaine qui se retrouvent dans les océans, elle est impressionnante. À toutes les profondeurs, on va observer des déchets. Des déchets comme, des canettes de coca, mais aussi des bateaux coulés, des cargaisons de bateaux perdus avec des produits chimiques. Et puis d'autres choses aussi tout à fait volontaires qu'on a fait, c'est-à-dire que quand sur Terre on a des déchets de la mine, des activités nucléaires, eh bien, des fois, on se dit, ils nous en mettront moins là-bas qu'ailleurs. Donc, on a et on continue à accumuler beaucoup de déchets dans la mer, de façon intentionnelle, parfois, et parfois de façon non intentionnelle. Donc, évidemment, on parle aujourd'hui beaucoup des pollutions par le plastique et les microplastiques, mais il y a aussi des tas d'autres polluants, des métaux, des tas de choses, et tout ça s'accumule dans les océans. Et a forcément un impact, mais c'est vraiment difficile déjà d'évaluer à quel point il y a de cette pollution et encore plus d'évaluer ce que ça fait aux organismes qui habitent les grands fonds.
Dans quelques instants, on écoute Alexandra Delbo, mais un petit mot aussi parce que on a consacré tout un épisode sur justement l'exploitation minière et pétrolière des abysses. Je vous invite à podcaster justement notre épisode Minage sous-marin, une erreur abyssale. Où tous les spécialistes sont assez d'accord sur le fait que si c'était mis en place, ce serait une catastrophe, au même titre que c'est une catastrophe sur Terre. Merci en tout cas à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Tout de suite, on reste en pleine mer. C'est la chronique avec science d'Alexandra Delbo.
Comment
comment évoluent les couleurs de l'océan? Elles peuvent changer au gré des saisons et des latitudes. Par exemple, des efflorescences de plancton, qu'on appelle aussi des blooms, se produisent à chaque année, au printemps et en été. Avec certaines conditions de température, de salinité et de courant, les micro-algues peuvent proliférer massivement et teinter l'océan de vert, brun, jaune, orange ou même rouge en fonction des pigments portés par les micro-organismes. Ces phénomènes-là sont transitoires. Ce qui est permanent, en revanche, c'est que les couleurs de l'océan traduisent la profondeur à laquelle la lumière du soleil peut pénétrer dans l'eau. C'est ce qu'on appelle la zone photique. Marc Sourisseau est chercheur à l'Ifremer à Brest et responsable du laboratoire d'écologie pélagique.
La zone photique, c'est la zone dans laquelle arrive à pénétrer la lumière du soleil, donc qui arrive aux surfaces des océans. Et de manière générale, c'est la profondeur à laquelle on a absorbé 99% de la lumière. Cette profondeur en mètres, elle est évidemment variable en fonction de l'atténuation, donc qui est de l'eau, et on sait qu'il y a des paramètres qui sont importants sur l'atténuation. L'eau de mer, déjà, de manière naturelle, a des propriétés d'absorption. Donc quand l'eau est très très claire, on peut avoir des zones photiques qui descendent à 120, 130 mètres, 140 mètres, ou à peu près cette moyenne-là, quand l'eau est très très claire, donc dans les eaux qui sont des eaux tropicales. Et puis on sait que quand on s'approche, évidemment, des zones côtière avec de la matière en suspension à l'intérieur, que ça soit des particules, du sédiment, du minéral ou du phytoplancton qui s'est développé, donc qui va colorer un petit peu l'eau en verte. Eh ben, on va augmenter les propriétés d'absorption. Donc, du coup, on va diminuer la profondeur de cette zone photique qui va se réduire. Et plus c'est sombre et plus cette zone est réduite.
Dans ces zones photiques ou euphotiques, c'est la même chose, se trouve l'essentiel de la biomasse et donc la majorité des organismes marins. Tout simplement parce que c'est le seul endroit où peut se produire la photosynthèse, et qui dit photosynthèse dit nourriture pour tout le monde, du bas de la chaîne alimentaire avec le plancton jusqu'aux gros mammifères marins. Une nouvelle étude parue dans Global Change Biology a voulu estimer l'évolution de sa profondeur au cours du temps grâce à 2 décennies de données du satellite Aqua. Les scientifiques ont donc découpé l'océan façon puzzle en carré de 9 km. Dans chacun de ces gros pixels, la couleur moyenne de l'eau de surface a été estimée à l'échelle du globe pour remonter finalement à la profondeur de la zone photique. Et résultat, 20% de l'océan s'assombrit, la zone photique se réduit donc, et cela pourrait avoir des conséquences sur l'ensemble de la chaîne alimentaire.
Dans les océans, il y a des organismes comme le zooplancton qui vont faire des migrations journalières et donc monter en surface la nuit et descendre le jour jusqu'à 200, 300, 400 mètres, voire plus, pour se positionner dans une zone obscure où, en fait, là, il y aura moins de prédation visuelle. Et cette zone-là où ils vont monter et descendre, en fait, du coup, leur positionnement va être modifié, ou pourrait être modifié, c'est ce que propose l'étude en tout cas, par cet assombrissement des océans. Puisqu'un organisme qui s'arrêterait de migrer à 600 mètres, les courants n'étant pas les mêmes dans toutes les couches d'eau, en fait, en s'arrêtant à 300 mètres ou à 600 mètres, pourrait être dans des conditions environnementales de température et d'advection différentes. Ce qui donc implique après l'ensemble de la chaîne trophique, puisque ces organismes planctoniques qui s'alimentent sur le phytoplancton sont ensuite mangés par les poissons, par les mammifères marins, etc.
Si la zone photique se réduit, les organismes entrent aussi davantage en compétition. Et ce n'est pas qu'une histoire d'assombrissement, car 1/10 de l'océan, c'est lui éclairci, mais dans les 2 cas, cela signe un risque de bouleversement dans la chaîne trophique. L'étude en elle-même n'explore ni les causes, ni les conséquences, mais elle rejoint d'autres études qui pointent une modification de la couleur de l'océan. Ces observations portent sur seulement 20 ans. L'enjeu est de les poursuivre dans le temps pour s'assurer que la modification est continue et global, avec en ligne de mire évidemment le rôle du changement climatique dans ce phénomène.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la science CQFD. Ève Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Céline Lauzel, Lou Angers, Alexandre Morales, Loïc Dutoit. À la réalisation, Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, Anthony Thomasson. N'hésitez pas à nous podcaster sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.